Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mercredi 5 janvier. On est très heureux, comme chaque jour, d'accompagner votre réveil de si bonne heure. On parlait hier de remise en forme après les fêtes. Ça allait le petit sachet de soupe sans goût hyper protéiné d'hier soir, Julien.
Alors figurez-vous que c'était bien de la soupe au menu, mais de la soupe maison, et je peux vous dire que mes petites poignées d'amour ne s'en portent que mieux.
Ah bah c'est bien l'essentiel. Allez, on rentre dans le vif du sujet, dans l'actualité ce matin, Julien.
Des petites phrases qui font beaucoup réagir, celles confiées par Emmanuel Macron à des lecteurs du Parisien. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, et donc on va continuer de le faire. Ça a le mérite d'être clair, et ça a mis une nouvelle fois le feu aux poudres à l'Assemblée nationale. On va voir tout cela dans le journal dans 2 minutes.
Une première mondiale également au menu.
Oui, vous nous en aviez parlé lundi, Omblin. Cette expérimentation qui vient de débuter avec l'installation des tout premiers radars sonores dans la vallée de Chevreuse. Radars qui pourront à terme verbaliser les deux roues trop bruyants.
Et c'est loin d'être anodin car le bruit, on parle là du trafic routier, des réacteurs d'avions, de vos voisins. Toutes ces nuisances ont un coût.
Et il est abyssal, tenez-vous bien, 147 milliards d'euros par an. C'est le coût des maladies qu'engendre le bruit, de la perte de productivité ou encore des dépréciations immobilières. Rendez-vous à 6h10 avec la députée Lauriane Rossi, présidente du Conseil National du Bruit, parce qu'il existe un Conseil National du Bruit, je vous l'apprends peut-être ce matin. Vous allez nous parler, Omblin, d'un dispositif qui va changer la vie de pas mal de Français.
Oui, des particuliers qui font appel à un employé à domicile pour des prestations de ménage, de jardinage, pour le soutien scolaire de leurs enfants.
Tous ces foyers bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses engagées dans l'année.
Voilà, et un remboursement de la moitié du salaire de l'employé versé un an plus tard, une fois la déclaration d'impôt sur les revenus remplie. Eh bien, dès ce mois de janvier, des particuliers employeurs bénéficient de ce crédit d'impôt en temps réel, chaque mois. Toutes les explications à 5h45 avec Antoine Grézeau, le directeur général de la Fédération du service aux particuliers.
Et puis, on terminera avec votre partition.
Quel est le lien entre Good Times de Chic et Rapper's Delight de Sugar Hill Gang? Une boucle musicale. Je vais vous raconter comment est né le premier tube de rap de l'histoire.
Voilà pour une partie du programme. Bon réveil sur Europe. On commence avec la météo. Bonjour Marlène Duret.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Ça baisse partout côté température.
Oui, on change de masse d'air. La douceur laisse place à de l'air froid qui fatalement entraîne une chute des températures sur la plus grande partie du pays. Dans de l'air plus sec quand même, on le précise. Pour l'instant, pas de grosses gelées, mais les minimales peuvent encore baisser. Et comme il a beaucoup plu hier, un risque de regel sur des sols humides reste possible sur le quart nord-est. On va le sentir hein. Déjà ce matin. Couvrez-vous bien quand même. Aujourd'hui, on s'est habitué à cette douceur. Il fera 4 à 10 degrés en général, jusqu'à 11 à 17. Toujours, oui, autour de la Grande Bleue. Quant à la perturbation qui a donné beaucoup de pluie, eh bien, elle s'éloigne vers l'Allemagne. Mais quelques nuages quand même restent accrochés. Quelques averses, oui, entre les Pyrénées, en fait, sur tous les reliefs montagneux avec le retour de la neige à basse altitude. Pas grand-chose, mais quand même. Voilà. C'est la tendance de la journée et le retour quand même des éclaircies par le nord et l'ouest.
Vous nous en parlerez dans une demi-heure. Merci beaucoup Marlène Duret. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre assemblée. Pour toutes ces raisons, la séance est levée.
Vous entendez Marc Le Fur, président de séance cette nuit à l'Assemblée nationale, furieux qui suspend les débats sur le pass vaccinal. En cause, les propos polémiques d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ce matin. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. On vous explique tout dans un instant. Trop de bruit et notre santé en prend un coup. Je vous en parlais dans le sommaire. La pollution sonore, c'est l'un des maux de notre société et elle nous coûte très cher, près de 150 milliards d'euros par an. Et puis 148 morts, dont 134 Français. 18 ans après le crash de Charmel Cher, l'ancien patron de la compagnie aérienne vient d'être mis en examen à Paris. Les familles de victimes espèrent enfin avoir un procès.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mercredi 5 janvier vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. La bombe lâchée par Emmanuel Macron dans un entretien accordé aux Parisiens ce matin, il n'en fallait pas plus pour provoquer un tollé à l'Assemblée où l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été une nouvelle fois suspendu cette nuit alors que les débats avaient relativement bien commencé. Alexis de La Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez cette nuit pour Europe 1 à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, il est 21h quand l'interview du président apparaît aux yeux des députés et la réaction fut immédiate. L'opposition est rentrée dans une colère noire. Les élus ont lancé un ultimatum, suspendre tout débat sur le pass vaccinal si le Premier ministre ne vient pas clarifier les propos du président. C'est le cas de Valérie Rabault, président du groupe socialiste Furieuse.
Quelle est la nature du texte du projet de loi que nous débattons ce soir ? Est-ce un texte qui vise à protéger la santé des Français ou à les emmerder ? Monsieur le ministre, nous attendons votre réponse et je demande une suspension de séance.
Une déclaration du président qui clive les Français entre vaccinés ou non. Pour le candidat communiste Fabien Roussel, c'est évident. Les déclarations du président rentrent dans une logique de division puérile des citoyens.
C'est tout à fait à l'image de ce passeport vaccinal qui est vraiment fait pour emmerder ceux qui ne sont pas encore vaccinés alors qu'il y a beaucoup à faire pour les convaincre. Et là, le président de la République, il casse tout.
Tout cassé, peut-être. Pour l'instant, tout est à l'arrêt. La séance ne pourra reprendre qu'à 15h et d'ici là, les tensions vont sûrement s'intensifier.
Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Cette interview au Parisien a duré plus de 2 heures. 2 heures pendant lesquelles Emmanuel Macron est revenu sur de nombreux sujets. Jacques Serret, à 3 mois de la présidentielle, il est normal de s'interroger sur ses intentions. Est-ce que ça y est, il se lance enfin officiellement dans la course ?
Alors la question lui a évidemment été posée et il y répond presque sans détour. Il n'y a pas de faux suspense. J'ai envie, dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet, je dirai ce qu'il en est, explique-t-il. C'est en tout cas pour lui une manière de faire sa rentrée politique en ce mois de janvier, de faire parler de lui, de se placer au centre de la course présidentielle et surtout, se montrer transgressif. Au risque de diviser et d'enflammer le débat politique.
Merci Jacques Serret. Ce qui peut s'apparenter à une promesse de campagne, c'est qu'Emmanuel Macron assure dans cet entretien fleuve que tant qu'il sera en fonction, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Concernant l'épidémie de Covid, plus de 271 000 nouveaux cas détectés hier et un cluster identifié à bord d'un navire de croisière MSC parti de Marseille dimanche pour rejoindre l'Italie. 45 passagers débarqués à Gênes ont été testés positifs. 150 selon la presse italienne. Tous les voyageurs ont interdiction de sortir du paquebot.
C'est une facture que nous devons payer chaque année et qui nous coûte très cher, celle liée à la pollution sonore.
Et le phénomène est moins connu que la pollution de l'air, mais son coût social est faramineux. L'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a fait une estimation, Carole Ferry, et les chiffres sont tombés. Le bruit nous coûte chaque année 147 milliards d'euros.
Exactement. Et alors, quelle est selon vous la principale source de pollution sonore ? Le trafic routier, c'est plus de la moitié du coût, arrive derrière. Le bruit de voisinage, près de 18% de la facture. Alors dans le détail, vous avez le coût marchand, un peu plus de 21 milliards d'euros pour les hospitalisations, les arrêts maladie, la dépréciation de l'immobilier par exemple. Et puis tout le reste, plus de 134 milliards d'euros, eh bien c'est le coût du nombre d'années de vie perdues à cause du manque de sommeil, des maladies cardiovasculaires, du diabète ou de la dépression aggravée par la pollution sonore, selon la directrice de Bruit Parif, Fanny Mietlicki.
Alors, une année de vie en bonne santé est évaluée à 132 000 euros. Voilà. Donc après, on va multiplier les pertes de vie en bonne santé par cette valeur pour savoir combien de milliards d'euros sont perdus chaque année du fait du bruit.
Et parmi les mesures rentables pour lutter contre cette pollution sonore, l'ADEME note notamment la réduction de vitesse de 10 km/h sur les voies rapides et l'amélioration de la qualité acoustique des bâtiments scolaires.
Merci Carole Ferry, journaliste au service économie d'Europe 1.
Et on va approfondir sur ce sujet du bruit qui nous casse les oreilles et pas uniquement avec la députée Lauriane Rossi, présidente du Conseil national du bruit. Rendez-vous à 6h10. 148 morts, dont 134 Français. Rappelez-vous du crash de Sharm el-Sheikh, un avion de la compagnie égyptienne low-cost Flash Airlines tombé dans la mer Rouge en 2004.
Eh bien, 18 ans après les faits, Julien, l'ancien patron de Flash Airlines, Mohamed Nour, vient d'être mis en examen à Paris, la première depuis le début de l'affaire. Pour les familles des victimes, c'est le soulagement et surtout l'espoir d'avoir enfin un procès, comme le confie l'avocat Jean-Pierre Belcave.
C'est un sentiment de soulagement et de satisfaction. Les familles ont développé des milliers d'heures de travail, de recherche et d'analyse autour des données de cet événement, des bottes noires, des expertises qui ont été rendues. Et aujourd'hui, c'est le fruit de leurs efforts et de leur travail et de leur acharnement qui se trouve finalement illustré par ce qui arrive dans le dossier pénal. Ce dont il est question, c'est le niveau d'insuffisance de formation du commandant de bord dans cet avion au moment où où l'accident a eu lieu, qui est une responsabilité du président de la compagnie, qui n'est pas celle de la compagnie, attention, mais qui mérite d'être examinée.
Maître Jean-Pierre Belcave, avocat des familles de victimes, joint par William Molinier pour Europe 1.
On ouvre notre page sport avec du rugby à un mois de l'ouverture du tournoi Destination. Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, est retourné à l'entraînement hier.
Et non pas Marcoussis pour coacher les Bleus, mais la petite équipe du club amateur de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche. Elle évolue en Fédéral 2, l'équivalent de la 5e division. Et malgré le niveau moins élevé de l'équipe, Fabien Galthié est resté fidèle à lui-même. Au bord du terrain, notre correspondant dans la région, Jean-Luc Boujon.
À Tournon, hier soir, Fabien Galthié n'a pas fait semblant. Il a crié, replacé, recadré, chambré même les joueurs amateurs de l'équipe locale, pensionnaire de Fédéral 2, exactement comme quand il s'adresse à ses internationaux avant un match contre les All Blacks.
Ne montrez pas que vous êtes fatigué, ne montrez jamais que vous êtes fatigué. Debout les gars, debout. Quand le corps il peut plus, la tête elle peut encore. Et si elle peut encore, alors le corps il fait corps.
Confirmation des joueurs avec Galthié, ça rigole pas.
Il est exigeant, quand on fait pas ce qu'il veut, bah il nous sort comme il a fait tout à l'heure.
Il gueule beaucoup, mais quand il gueule, c'est cohérent quoi. Il m'a recadré.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Faut plus courir quoi. Mais bon, c'était une super expérience humaine. Se faire entraîner par le sélectionneur de l'équipe de France, c'est une expérience que je pense que je pourrais pas jamais revivre. Donc on va en profiter quoi.
Pour le sélectionneur, ce lien avec le monde du rugby amateur est fondamental.
Il y a 1800 clubs en France et nous sommes au service du rugby français. Il n'y a pas de ségrégation par rapport au niveau. Il faut que tous les joueurs de cette équipe de Tournon puissent se dire on n'est pas loin. Et puis il faut que tous les enfants qui jouent catégorie espoir ici puissent se dire mais c'est possible pour nous. On peut y arriver.
Des joueurs amateurs qui seront les premiers supporters de Galthié et des Bleus dans un mois pour l'ouverture du tournoi des Six Nations contre l'Italie. Tournons. Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et on termine avec du foot et Lens, qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, derby du Nord, hier soir face à Lille. Après un nul 2-2, les deux équipes ont terminé la rencontre avec une séance de tirs au but. Lens qui sera opposé à Monaco en huitième. Marseille recevra Montpellier et Nice ira à Paris.
De beaux matchs en perspective donc. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h09, c'est l'heure des courses sur Europe 1. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 512 Héra de Banville. Venant d'afficher sa parfaite condition physique le 13 décembre à Vincennes en se classant 3e face à une opposition plus relevée que celle de cet après-midi, cette jument bien née trouve dans la foulée des conditions de course très favorables sur un parcours de vitesse qui lui conviendra à merveille. Dès lors, elle devrait renouer avec la victoire qui lui échappe cependant depuis plus de 9 mois. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1, dans la 5e course, le numéro 12, Héra de Banville.
Le numéro 12, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Vous restez avec nous, on va ouvrir le pressing dans quelques secondes.
Votre revue de presse composée de 3 histoires que nous aurons le plaisir de vous raconter au menu. Une nageuse transgenre qui fait des vagues aux États-Unis, une galette qui sent fort, c'est en France, et un récidiviste en Corée du Nord. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h10, bonjour, bienvenue sur Europe 1, c'est le pressing et avec nous ce matin, Cédric Chasseur.
Bonjour Cédric.
Bonjour.
On commence avec les unes de vos journaux comme chaque matin. Europe, vaccination, réforme, élection, les 4 vérités de Macron, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le président qui, on en parlait dans le journal, a échangé pendant plus de 2 heures avec des lecteurs du quotidien et quelques punchlines savoureuses à la clé. Omicron, le variant qui change la donne, c'est le titre à la une du Figaro qui dresse un premier bilan de nos connaissances concernant cette mutation qui submerge le monde. Résultat, c'est plutôt encourageant. Omicron est certes extrêmement contagieux, mais il est aussi nettement moins sévère que Delta. Et puis on termine avec les Échos qui consacrent sa une à Apple, la firme qui valait 3000 milliards de dollars, peut-on lire, record absolu de capitalisation boursière. Voilà pour les unes. La plupart, en tout cas. Omblin, on commence avec vous.
Elle s'appelle Lia Thomas. Elle est une nageuse américaine de 22 ans et depuis quelques mois, elle aligne les performances dans les compétitions féminines du championnat universitaire de natation, l'antichambre du monde professionnel. Alors, pour vous donner une idée, ce sont par ces compétitions qu'est passé Michael Phelps, le plus grand nageur de tous les temps. Et donc, Lia Thomas accumule les records et ça fait grincer quelques dents. Pourquoi ? Parce que Lia Thomas est une nageuse transgenre. Il y a 2 ans, elle était un nageur. Et ça fait des vagues dans le courageux anonymat du vestiaire, comme l'écrit si bien Le Parisien aujourd'hui en France. Il n'y a pas que les nageuses concurrentes qui protestent. Un officiel de USA Swimming, la Fédération des États-Unis de natation, a même démissionné. En revanche, le prestigieux championnat universitaire se réjouit d'abriter un bel exemple d'inclusion par le sport. Balaye de la main la ville, polémique disant que la nageuse bénéficie d'un avantage déloyal et dit, je cite, « Tout le monde doit pouvoir concourir dans la catégorie dans laquelle il se sent le mieux ». Lia Thomas se sent nettement mieux entre les lignes de nage des compétitions féminines. Elle se sent enfin à sa place, ce qui n'était pas le cas il y a donc 2 ans lorsqu'elle était encore Il, lorsque son prénom était encore Will. Will nage depuis l'âge de 5 ans et disputait des épreuves masculines pour l'université de Pennsylvanie. Avant de faire son coming out, il ressentait une grande détresse et a disputé sa dernière course chez les garçons en novembre 2018, obtenant la 3e place. Le règlement qui régit le sport universitaire aux États-Unis impose une année civile minimum de traitement médicamenteux pour supprimer la testostérone avant de pouvoir concourir dans une épreuve de l'autre sexe. Avec le Covid, Lia Thomas a même patienté un petit peu plus. En décembre dernier, la nageuse a signé un retour gagnant en signant le meilleur temps de la saison du championnat universitaire chez les femmes, avec une avance de 38 secondes sur la deuxième.
38
ce qui
secondes
est énorme.
D'avance, c'est colossal.
Une très belle revanche pour celle qui ne savait pas si elle pourrait continuer de nager dans un état, la Pennsylvanie, qui, comme d'autres, a présenté l'année dernière 100 de projets de loi pour restreindre les droits des personnes transgenres. C'est un très bel article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France.
38 secondes d'avance sur la deuxième.
La
donc,
deuxième, ouais, c'est ça.
On comprend pourquoi les lignes en plus. Hein.
Ouais, on comprend c'est pourquoi les camarades
ouais, c'est ça.
Peuvent l'avoir un peu mauvaise.
Mais elles sont pas bien courageuses. Hein. Elles en parlent entre elles. Elles vont pas protester publiquement parce qu'elles ont peur d'être traitées de transphobes.
Merci.
Et d'être éliminées des compétitions.
Ombline pour cet article du Parisien. Donc, oui. Cédric, à vous.
Allez, avec un sujet complètement différent, je vais vous parler de l'épiphanie. Vous savez que traditionnellement, cette fête chrétienne est célébrée 12 jours après la naissance du Christ. C'est pourquoi l'épiphanie, c'est le 6 janvier. Et que fait-on à l'épiphanie ?
On tire les rois,
on mange des galettes des rois, ou des couronnes des rois, suivant que l'on vient du nord ou du sud de la France. Je ne veux relancer aucune guerre régionale. Mais là, c'est la galette qui nous intéresse. Ombline,
bon, vous, hein.
Vous l'aimez comment, vous, la galette des rois?
Ah, moi, c'est une couronne. Hein. Dans le Var, on mange une couronne.
Non, moi, avec de la frangipane.
La classique.
Ouais.
Et bien là, on va faire un peu différent. On va faire un peu moins traditionnel.
Ah.
En Normandie, on a décidé de faire les choses différemment. L'orne combattante nous apprend qu'un pâtissier de Briouze a eu l'idée de confectionner une galette. Pincez-vous le nez. Au camembert.
Oh, mais...
Une idée originale qui fait écho, nous raconte le journal, à une autre proposition surprenante d'un chocolatier des environs qui avait fabriqué il y a quelques années des chocolats au camembert. Là, c'est donc une galette des rois. Christophe Tabouret, le boulanger pâtissier de Briouze, s'est associé à la fromagerie Gillot pour proposer 2 recettes. Mmh. Alors la première est à base de jambon. Avec de la béchamel au camembert. L'autre est avec des pommes, de l'andouille. D'accord. Et toujours une béchamel au camembert.
Mais en fait, c'est une tourte.
Oui,
quoi.
C'est
une galette salée. Camembert qui se retrouve aussi dans les fèves, puisque l'artisan boulanger a fait créer des fèves uniques à l'effigie des boîtes de camembert de la fromagerie Gillot. Il y en a 12 à collectionner. Et sachez pour terminer que Christophe Tabouret dit avoir déjà une autre idée originale pour ses galettes la saison prochaine. Il n'a pas voulu la dévoiler, mais voilà, on ne perd pas le Nord. On est déjà prêt pour la saison prochaine du côté de la Normandie.
Donc demain, pour l'épiphanie, puisque ce sera le 6 janvier demain, on aura le choix entre la galette au camembert ou la galette à la frangipane.
C'est ça.
Chacun ses goûts.
Et pourquoi si pas les deux, une à l'entrée et une au dessert.
Exactement. Voilà.
Et si vous habitez en Île-de-France, la meilleure galette avec de la frangipane donc, se trouve visiblement à Clamart. C'est Patrick Dumont-Boulanger, situé à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, qui a reçu le premier prix de cette galette en Île-de-France.
Il faut la goûter maintenant.
On peut lancer un appel pour qu'il nous en envoie un petit peu et qu'on puisse justement dire que c'est vrai.
Eh ben, on verra ça. Merci beaucoup, Cédric. J'ai choisi, pour ma part, un article des Échos qui nous emmène en Corée du Sud, pays où, en ce début d'année, est pour le moins mouvementé au sens propre comme au sens figuré. Samedi matin, 1er janvier, aux premières heures du jour, un individu a réussi à traverser la frontière avec le Nord, la fameuse DMZ, ce no man's land large de 4 km qui divise la péninsule depuis près de 70 ans, depuis la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953. Et traverser cette frontière relève de l'exploit tant elle est militarisée. Champs de mines, barrières de barbelés de 3 mètres de haut, miradors, caméras et capteurs divers. Les passages par la DMZ sont rarissimes, a fortiori quand ils se font du sud vers le nord. Voilà ce qui s'est passé samedi. Un homme d'une trentaine d'années a pris tous les risques pour rejoindre le régime de Kim Jong-un. Alors, évidemment, tous les Sud-Coréens ont pensé d'emblée que c'était un espion qui rentrait au bergail. Les Sud-Coréens, un brin embarrassé tout de même par la facilité avec laquelle l'individu s'est joué de cette frontière, l'ultime ligne de défense de Séoul. Mais après 2 jours d'enquête, Séoul donc a dû reconnaître que non, l'homme en question n'est pas un agent secret à la solde de Pyongyang. Et si les militaires sud-coréens en sont convaincus, c'est parce qu'ils connaissent très bien l'individu. Et pour cause, c'est un récidiviste. En novembre 2020, ce trentenaire avait déjà réussi à traverser la DMZ, mais cette fois du nord vers le sud. Il avait fait défection et avait donc logiquement été longuement questionné par les services de renseignement.
Mais alors pardon, mais si c'est pas un espion, pourquoi il est repassé? Pourquoi il est retourné en Corée du Nord? Parce que bon...
C'est pas évident pour
nous.
Alors, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que ce réfugié ait été la cible d'un chantage d'agents de Pyongyang. En clair, tu rentres FISA, sinon on s'en prend à tes proches restés au pays. Mais l'hypothèse la plus probable, au vu des éléments rapportés dans la presse sud-coréenne, c'est tout simplement que ce transfuge n'ait pas réussi à s'intégrer dans la société sud-coréenne, où beaucoup subissent discrimination et précarité. Et c'est bien ce qui embarrasse Séoul. Le Sud maltraite tellement les réfugiés venus du Nord que de plus en plus d'entre eux s'interrogent, voire repartent dans leur pays d'origine, et ce, malgré tous les risques que cela implique. Je précise que depuis le début de la pandémie, les soldats communistes ont pour ordre d'abattre systématiquement toute personne traversant la frontière, Corée du Nord, où règne par ailleurs famine et terreur. Et malgré tout cela, notre homme samedi n'a pas hésité, tant il aurait été désenchanté par ses conditions de vie à Séoul, celles d'un agent d'entretien sous-payé, logé dans un dortoir miteux. Il sera resté à peine plus d'un an.
Merci beaucoup, Julien. C'est tout pour le pressing. Et Cédric, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure, évidemment.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, voici les principaux titres de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Emmanuel Macron déterminé à emmerder les non-vaccinés. Ce sont ses mots dans un entretien dans Le Parisien ce matin. Des propos qui se sont invités dans l'hémicycle de l'Assemblée cette nuit où les débats ont dû être suspendus alors que les députés examinaient le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Dans cet entretien fleuve, le président ne cache pas son envie de se porter candidat à la présidentielle, mais il a besoin d'en être sûr. Concernant l'épidémie de Covid, nouveau record de contamination hier avec plus de 271 000 cas en 24 heures. 64 enfants sont actuellement en réanimation. Selon Olivier Véran, le ministre de la Santé, un conseil de défense sanitaire se tient par ailleurs ce matin à 9h30. Et puis aux États-Unis, un an après l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, l'ancien président américain renonce finalement à sa prise de parole prévue demain. Dans un communiqué, il persiste sur ses accusations de fraude et indique qu'il s'exprimera le 15 lors d'un meeting en Arizona.
Vous êtes élu, membre d'une association, patron ou simple citoyen, et bien vous avez la parole chaque matin sur Europe 1. Ce sont les initiatives en France, la chronique de celles et ceux qui s'engagent.
Bonjour Stéphane Noël.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le directeur de l'établissement français du sang en Île-de-France. Et si on a le plaisir de vous avoir en ligne ce matin, c'est parce que vous organisez cet après-midi une grande collecte dans un lieu atypique, l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy. Expliquez-nous.
Écoutez, effectivement, cet après-midi, nous organisons une collecte à l'Accor Arena à Paris-Bercy. Nous avons pour coutume d'essayer d'offrir de manière régulière aux donneurs franciliens la possibilité de donner leur sang dans des lieux un petit peu emblématiques de la capitale. Aujourd'hui, c'est l'Accor Arena. Nous le faisons régulièrement dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Nous le faisons parfois au Parc des Princes. Donc, nous multiplions ce type de lieu pour offrir des conditions particulières de don aux donneurs, tout ça pour agrémenter l'expérience donneur. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir trouver la possibilité de faire venir à nous de nouveaux donneurs. Et réaliser dans des lieux emblématiques comme cela, c'est aussi offrir la possibilité à des donneurs de franchir le pas de lieux absolument symboliques, comme on le fait aussi, par exemple, régulièrement au niveau de l'Opéra Bastille, où on a des conditions absolument incroyables pour donner son sang.
Est-ce qu'il y aura des conditions à remplir pour pouvoir accéder à Paris-Bercy, à cette collecte tout à l'heure ?
Alors, pour venir sur cette collecte de manière exceptionnelle, il faut être titulaire de son pass sanitaire. C'est l'une des seules collectes où il est nécessaire d'avoir son pass sanitaire, dans la mesure où venir donner son sang n'est pas soumis à l'obligation du pass sanitaire. Mmh. Et d'autre part, pour donner son sang, ben, la principale condition à remplir, c'est de se sentir en bonne santé, d'avoir plus de 18 ans, de peser plus de 50 kilos. Et puis, si les personnes veulent vérifier avant de venir en collecte s'ils sont éligibles, on peut faire un petit questionnaire sur notre site internet. Il est très simple à faire, et ce qui permet de traiter les principales causes d'inéligibilité pour que les gens viennent et viennent en toute confiance pour pouvoir donner leur sang. Ce qui est important également de noter, c'est que dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, nous recommandons très vivement aux personnes de prendre rendez-vous et de s'inscrire via notre site internet. Donc c'est très simple, vous allez sur un moteur de recherche, vous mettez « don du sang », vous trouverez notre site internet et sur ce site internet, vous pourrez prendre rendez-vous et par là même faire votre petit test d'éligibilité qui est vraiment très simple. Et venir donner son sang, c'est quelque chose qui est vraiment facile pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons véritablement besoin que les gens viennent vers nous dans la mesure où nos stocks de produits sanguins sont excessivement bas.
On va y revenir dans un instant. Je voudrais juste préciser tout d'abord que si le pass sanitaire est exceptionnellement exigé cet après-midi à Paris-Bercy, c'est que la salle est considérée comme une salle de concert et que au regard des dernières mesures gouvernementales, le pass sanitaire y est exigé. Effectivement, vos stocks sont alarmants.
On considère que pour remplir correctement notre mission vis-à-vis des patients, il faut avoir à peu près 100 000 poches de concentré de globules rouges en stock. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes sur un seuil historiquement bas, puisque ce matin, nous sommes aux alentours de 76 000 poches en stock. La situation est historiquement basse, et quand je dis historiquement basse, c'est depuis la création de l'EFS au 1er janvier 2000. Je pense que nous n'avons jamais eu un stock aussi bas. C'est important que les gens se mobilisent. C'est à la fois les personnes qui ont l'habitude de venir nous voir, les donneurs habituels, mais aussi ceux d'entre vous qui n'ont pas encore osé franchir le pas, qui n'ont pas encore osé venir sur nos collectes. Venez nous voir si vous avez besoin d'être rassurés, si vous avez besoin d'explications. N'hésitez pas à venir vers nous, à venir consulter notre site internet, à venir sur nos lieux de collecte, qu'il s'agisse de sites fixes ou de collectes mobiles, pour qu'on puisse vous expliquer le processus du don. Il est très simple, très très simple ce processus du don. Et globalement, ça prend moins d'une heure. Et en une heure, vous sauvez trois vies, puisqu'avec votre produit sanguin, nous pourrons faire trois produits à usage thérapeutique pour les patients. C'est un geste vraiment altruiste et on est aujourd'hui à l'heure des bonnes résolutions en ce début de mois de janvier. Et j'appelle vraiment vos auditeurs à venir vers nous, c'est important, et encore plus dans ce contexte de stock historiquement bas.
Est-ce qu'il y a des groupes sanguins dont vous avez particulièrement besoin ?
Aujourd'hui, tous les groupes sanguins sont importants. Nous avons besoin aujourd'hui de tous les donneurs. Évidemment, les donneurs de groupe O, O positif, O négatif, les donneurs de groupe B négatif, sont un petit peu plus recherchés aujourd'hui. Mais vraiment, nous avons besoin de tout le monde, vous le comprenez, nous avons des stocks historiquement bas, 76 000 produits ce matin environ, un seuil à 100 000, nous sommes un quart en dessous de la ligne de flottaison, il est important que tout le monde se mobilise.
Ça veut dire qu'il y a un risque réel que des malades ne reçoivent pas de transfusion dont ils auraient besoin ?
Aujourd'hui, nous devons tout faire collectivement pour éviter ce risque. L'établissement français du sang se mobilise, par exemple, dans ma région en Ile-de-France, les personnels aujourd'hui, qui avaient des congés sur ces deux premières semaines de janvier, ont accepté pour beaucoup d'entre eux de supprimer leurs congés pour faire en sorte que nous puissions accroître notre offre de collecte de 15% sur les deux premières semaines de janvier pour créer tous les jours un lieu de collecte supplémentaire. Donc vous voyez, l'établissement se mobilise fortement et je voudrais remercier tous ces personnels en Ile-de-France, mais ça vaut pour l'ensemble des personnels de l'EFS en France. Je vous assure, nous sommes tous mobilisés, nous sommes sur le pont, mais nous devons aussi avoir des donneurs qui viennent vers nous et nous comptons beaucoup sur vos éditeurs ce matin pour venir vers nous, c'est important.
Rendez-vous donc à partir de 14h cet après-midi à l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy. Merci beaucoup Stéphane Noël, directeur de l'établissement français du sang en Ile-de-France. Merci pour votre engagement et votre appel et à bientôt sur Europe 1.
Europe Matin, on Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon début de matinée sur Europe 1, excellent mercredi 5 janvier. Au programme de la prochaine demi-heure, les premières sorties cinéma de l'année 2022.
Et ça commence très bien avec beaucoup d'amour sur grand écran. Le film En attendant Bojangles avec Virginie Efira et Romain Duris, ainsi que la nouvelle comédie romantique de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Rendez-vous avec Laurie Choleva dans 20 minutes.
Et puis, on revient ce matin sur l'une des nouveautés de ce début d'année, le crédit d'impôt mensualisé.
Ceux qui emploient un salarié à la maison pour du ménage, du bricolage, pour aider son enfant qui a du mal en maths ou en anglais le savent bien, ils sont remboursés à hauteur de 50% des dépenses engagées pour l'emploi de ce salarié à domicile. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait attendre un an avant de toucher ce crédit d'impôt. Le voici donc désormais mensualisé, comme vous l'avez dit, plus la peine d'avancer cet argent. Concrètement, comment ça marche? On verra ça avec Antoine Grézeau, qui est le directeur général de la Fédération du service aux particuliers.
Mais avant la météo avec vous, Marlène Duret, et bonne nouvelle, le temps s'améliore.
Oui, moins d'humidité, Julien, moins de douceur, plus de soleil au menu météo aujourd'hui et demain, avant le retour d'une perturbation par la Bretagne. Alors on va profiter de ces instants ensoleillés puisque le soleil revient par le nord et par l'ouest. Mais entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes du Nord et l'Alsace, encore pas mal de nuages, quelques averses possibles, parfois sous forme de neige sur les hauteurs à partir de 300 mètres, pas grand-chose. Hein. Et puis dans les Alpes du Sud encore, c'est sur la Côte d'Azur, là on attend des retours nuageux en provenance d'Italie avec de la neige sur le relief alpin cet après-midi, des 1300 mètres. Et la limite plus neige s'abaissera en soirée. Du vent, beaucoup de vent en Méditerranée, hein, jusqu'à 90, 100 km à l'heure en rafale, voire 110 en fin de journée en basse vallée du Rhône. Et du côté des températures, ça baisse franchement pour le coup. Cet après-midi, elles seront comprises entre 4 degrés à Saint-Étienne et 15 sur la baie de Nice, avec 5 à Nancy, Grenoble et Clermont-Ferrand, 7 à Paris, Blois, Limoges ou encore 9 à Niort.
C'est noté, merci beaucoup Marlène Duret. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mercredi, Emmanuel Macron veut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Déclaration choc du chef de l'État dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Colère des députés de l'opposition en plein débat sur le pass vaccinal. La séance a une nouvelle fois été suspendue. Pendant ce temps, l'hôpital craque de partout. À Necker, certaines opérations de chirurgie classique doivent être annulées, faute de personnel. Et puis, les entreprises face à la hausse vertigineuse des prix de l'électricité. En Mayenne, une scierie a décidé d'utiliser un bon vieux générateur diesel pour éviter de faire flamber sa facture.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. J'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. C'est Emmanuel Macron qui le dit dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. On va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est la stratégie, précise le chef de l'État. De quoi rajouter largement de l'essence sur les braises en plein débat sur les passes vaccinales. Et ça n'a pas loupé. À l'Assemblée, l'opposition de droite comme de gauche a exigé la venue du Premier ministre pour qu'il s'explique. Refus de Jean Castex. Nouvelle suspension de séance et une première tentative de calmer le jeu signée Christophe Castaner, le chef de file de La République En Marche.
Je suis d'accord sur le fond et d'accord sur la forme avec le président de la République. Et donc c'est bien aussi d'utiliser les mots des Français. Je pense que nommer les choses est une bonne chose. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler de ce qu'il dit sur l'Europe, de ce qu'il dit sur notre système de santé, au-delà des polémiques qui appartiennent, vous savez, à une toute petite catégorie de Français. Mais au fond, ça n'est pas la vraie vie de chacun de nos concitoyens.
Christophe Castaner, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée, il était au micro d'Alexis de La Fontaine. Reprise des débats prévue normalement à 15h cet après-midi. Il reste encore près de 450 amendements à examiner.
L'Assemblée en pleine crise de nerfs alors que la crise sanitaire est loin d'être passée.
Le nombre de contaminations continue de progresser. 271 000 nouveaux cas enregistrés hier. Les Français pris d'une frénésie de tests. 7 millions de dépistages PCR et antigéniques effectués la semaine de Noël, par exemple. Le plus souvent, on pousse la porte d'une pharmacie pour le faire ou celle d'un Barnum. Ces petites tentes blanches installées sur le trottoir. Problème, elles sont très souvent illégales. À Paris, la police municipale fait la tournée de ces vrais faux centres. Thibaut Hu a suivi une équipe reportage.
Bonjour madame, police municipale, on peut voir vos autorisations s'il vous plaît.
Après contrôle des papiers, les policiers sont formels. L'ARS indique que cette jeune femme n'a pas le droit de rester ici.
Et bien, un contrôle de l'ARS a donné un avis défavorable et sur lequel on nous demande le fait de vous faire partir. Vous n'avez pas le droit d'exercer ici. On est d'accord, madame ?
L'étudiante en école d'infirmière, responsable du Barnum, appelle son patron qui lui demande de rester coûte que coûte. Stéphane Bougibeau, chef de la division du centre de Paris, décide de prendre des mesures.
Une contravention à 135 €, au vu du nombre de tests, c'est pas assez dissuasif. J'ai demandé à ce que plusieurs effectifs puissent passer pour empêcher de continuer son activité.
Trois tentes viennent d'être évacuées et elles appartenaient toutes à la même entreprise, un cabinet d'ophtalmologie parisien, car en effet, un Barnum est très rentable.
On peut considérer qu'ils font entre 150 et 200 tests par jour, 25 € le test. Donc on part entre 2500 et 5000 € par jour.
Et la supercherie va parfois encore plus loin.
On en a eu au niveau des Champs-Élysées des touristes à qui on leur a demandé plus de 100 € et sur laquelle la police municipale est intervenue.
Le nombre de ces Barnums illégaux diminue, mais ils sont toujours très nombreux, près d'une trentaine par arrondissement parisien.
Et à côté de ces faux centres, il y a les vrais, les pharmacies et les hôpitaux par exemple. Selon nos confrères des Échos, près de 30 millions de tests ont été effectués en décembre. Le coût pour la sécurité sociale devrait atteindre 1 milliard d'euros.
Positif au Covid ne veut pas forcément dire malade. Il n'empêche que la pression se fait de plus en plus forte sur les hôpitaux.
Et près de 4000 malades dans un service de soins critiques, ça devient très tendu par endroits en fonction des régions et des hôpitaux. Et quand ce ne sont pas les lits qui manquent, c'est le personnel. Du coup, les opérations non urgentes le deviennent à force d'être retardées. Sabine Sarnaki est chef du service pédiatrique viscéral et urologique de l'hôpital Necker à Paris.
On va être obligé dans le prioritaire de faire du reprioritaire, voilà, qui n'est pas facile et le choix peut être compliqué. Alors c'est déjà compliqué de base, sans le Covid, et donc même chez ces malades qu'on tague comme urgents, ça devient difficile de faire des choix parce que nos moyens sont limités. Et donc on s'est retrouvé avec des enfants qui clairement ont pâti du report des interventions, qui n'étaient pas en soi des interventions urgentes, vous voyez, c'est des interventions qui peuvent être programmées sur 3 mois ou sur 4 mois, vous voyez. Mais à force d'être reportés, parfois ils ont attendu 1 an et demi. Donc ils se sont infectés avec de la morbidité et puis je pense qu'on peut dire que certains enfants ont perdu de la fonction rénale.
La chef du service pédiatrique viscéral et urologique de l'hôpital Necker à Paris avec Yasmina Khatoum.
Après les ménages, c'est au tour des entreprises d'affronter l'explosion des prix de l'énergie. Et certaines n'hésitent pas à revenir aux bonnes vieilles méthodes, pas forcément très écologiques.
Plus 18,6%, c'est la hausse des prix de l'énergie sur 1 an. Pour les ménages, l'État a compensé en partie en bloquant les prix, mais pour les entreprises, rien n'a été prévu. Exemple avec cette scierie basée en Mayenne, son fournisseur d'électricité envisageait de multiplier ses tarifs par 6. Impossible pour le directeur qui a donc choisi de fabriquer sa propre électricité avec un générateur au fioul. Au reportage, Sandrine Prioul.
Donc là, c'est une ligne à palette qui tourne 10 heures par jour.
Sillage des rondins, robots, lignes d'assemblage pour sortir chaque année 400 000 palettes. Yannick Chopin a besoin d'électricité comme dans toute PME, sauf qu'il ne s'attendait pas à voir son devis passer de 96 000 à 600 000 euros par an.
Quand je vois ces tarifs exorbitants, on marche sur la tête. Des augmentations fois 6, on avait une charge externe de 9% qui représenterait aujourd'hui 50%. Franchement, incohérent.
Et ce patron a donc décidé d'avoir recours à un plan B. D'ici quelques jours, ce n'est plus le réseau électrique qui alimentera sa scierie, mais bien un groupe électrogène nourri au fioul.
Le groupe électrogène qui devrait être une solution pour un dépannage ponctuel. Là aujourd'hui, les loueurs de groupes électrogènes ont de plus en plus de demandes parce que les factures sont si importantes qu'on revient en arrière, c'est-à-dire que le pétrole devient moins cher que l'électricité.
60 litres de gasoil par heure et tant pis pour le bilan carbone. Le patron de cette PME se dit contraint. Il envisage aussi d'augmenter ses tarifs au moins de 10%. Vilaine Lajuel en Mayenne, Sandrine Prioul, Europe 1.
Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après l'explosion de la voiture d'un concurrent du Paris-Dakar en Arabie Saoudite.
Et pour les concurrents visés, il s'agit d'un attentat. Le 30 décembre, le véhicule civil d'un équipage français a été visé par une explosion alors qu'il se rendait sur le parc fermé où l'attendait sa voiture de course. Le chauffeur a été grièvement blessé aux jambes. Les autres passagers s'en sont sortis indemnes. Simple accident, affirment les autorités saoudiennes. Mais pour Marie-France Esténave, attachée de presse de l'équipe Sodicar, la piste terroriste ne fait au contraire aucun doute.
C'est un immense soulagement. Je n'en ai jamais douté. Après ce récit des 5 autres occupants de la voiture, ils ont été très clairs. Grosse déflagration, morceaux de plastique partout et également dans les jambes du blessé. Eux, ils sont clairs. Quand ils ont vu les dégâts, ils ont parlé de bombes aussitôt et d'attentats. C'est pas nous qui nous sommes amusés à mettre une bombe dans un longeron de 4x4. Pour moi, c'est un attentat. Contre qui, contre quoi, on ne sait pas. Est-ce que c'est contre le Dakar? Est-ce que c'est contre les Français? Pourquoi nous? Pourquoi cette bombe dans cette voiture immatriculée 33 du Saudi Car Racing? Ben, nous aimerions savoir. Donc, nous espérons que par cette enquête, eh bien, nous arriverons à savoir la vérité.
Marie-France Esténaves avec Nina Droff.
On prend la direction de l'espace avec une étape cruciale pour le télescope spatial James Webb.
Le déploiement de son bouclier thermique solaire, élément essentiel pour protéger le matériel embarqué. L'opération a nécessité 2 jours de travail minutieux, Alexis Guilleux.
Oui, tout un travail d'orfèvre, il a fallu déplier une à une les 5 couches de Kapton, un matériau ultra résistant aux températures les plus extrêmes. Chaque couche mesure la taille d'un terrain de tennis, elles avaient été pliées avant le décollage le 25 décembre. Une opération délicate et un immense soulagement pour les ingénieurs de la NASA. James Cooper dirige l'équipe en charge du bouclier.
Nous sommes très satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu'à maintenant. Je pense que le déploiement du bouclier solaire était certainement l'étape la plus complexe. Toutes les pièces devaient se déplacer de manière coordonnée, la structure, plusieurs poulies, des câbles et des membranes. Donc oui, la partie bouclier solaire était la plus difficile.
Les agences spatiales américaines et européennes ont donc bon espoir de voir fonctionner dans les prochains mois ce télescope, projet à près de 10 milliards d'euros. Avec ce bouclier, tous les instruments embarqués à bord sont protégés de la chaleur du soleil. Ce matériel ne peut fonctionner qu'à basse température et que dans l'obscurité pour détecter des sources lumineuses très lointaines et ainsi mieux comprendre les premières galaxies. Prochaine étape, le déploiement des miroirs qui devrait prendre une dizaine de jours.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Eh bien, c'était le journal passionnant de Christophe Lamarre. Merci beaucoup, Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour, Thierry.
Bonjour, Julien. C'est une nouvelle fois à Vincennes que va se courir ce Quintet parmi les 14 partants après les forfaits des numéros 8 et 15 qui en découdront sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'auto-start. Priorité aux chevaux s'élançant en première ligne avec les numéros 3 et va de Guérinière en grande forme, comme le prouvent ces 2 dernières courses sur le parcours qui nous intéresse, qui se sont soldées par 1 victoire et 1 quatrième place. 6, Extrême des Bois, l'un des bons trotteurs d'âge évoluant dans le sud-ouest, et 7, Éveil du Lupin, irréprochable et sachant finir ses courses. Derrière ces 3 bons favoris, je vous propose Emeraude de Baie, le numéro 13, revenu au mieux après avoir été ménagé à l'automne, avec Emblaine Castellet, le numéro 10, qui défendra les couleurs du crack jockey de plat Maxime Guyon. Enfin, les numéros 1, Élixir de Crène, 16, Dirmonet et 11, Espoir du Noyer, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 6, 7, 13, 10, As, 16 et 11.
3, 6, 7, 13, 10, As, 16, 11, les pronostics de Thierry Léger retrouvés dès maintenant sur Europe1.fr.
Et je précise que les 8 et 15 sont forfaits.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Le pass vaccinal continue de faire des remous à l'Assemblée nationale. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Une forme déguisée d'obligation vaccinale, voilà ce qu'avait dit Olivier Véran. C'est en partie cette contrainte qui fédère les oppositions. Mais l'obligation vaccinale, Pauline, est en fait une très vieille histoire française. Retour avec vous sur l'une des premières injections obligatoires, le vaccin contre la poliomyélite.
Une maladie infectieuse ravage l'Europe et les États-Unis depuis les années 40. Une maladie parfois mortelle et des milliers d'enfants sont paralysés. Le virus s'attaque au système nerveux, la moelle épinière, l'appareil respiratoire. Et les malades doivent aller s'enfermer dans des tubes de fer, des poumons d'acier, dit-on, pour pouvoir respirer. C'est la polio. 24 000 personnes sont atteintes de cette maladie aux États-Unis en 52, 4 000 en France en 57. Cette année-là, les foyers se multiplient en Meurthe-et-Moselle. Les écoles sont fermées, raconte sur place Pierre Robic.
94 cas depuis mars, dont 47 au mois de juin, 10 depuis le début de juillet. Tel est le bilan provisoire de cette épidémie qui, après avoir débuté dans la région de Lunéville, a gagné Nancy pour se propager dans une vingtaine d'autres petites villes. 12 enfants sont morts et il ne se passe guère de jour sans que de nouveaux cas soient signalés.
1957, cela fait un an que la France a commencé sa campagne vaccinale et depuis le 1er juin 1956, 100 000 personnes ont reçu leur injection contre la poliomyélite. C'est le vaccin du professeur Pierre Lépine de l'Institut Pasteur qui est distribué aux Français. Le seul moyen, dit-il, de se protéger contre cette maladie extrêmement contagieuse.
Est-ce qu'en France, la polio est une maladie qui est en extension ?
Dans le monde entier, la poliomyélite est en extension. Dans le monde entier, c'est la seule des maladies infectieuses. Et ceci bien nous montre que les mesures courantes d'hygiène qui suffisent pour arrêter les autres maladies ne suffisent pas. Je crois par conséquent qu'il est important de vacciner les enfants et de les vacciner tôt, c'est-à-dire de les vacciner vers la première année.
L'année suivante, en 1958, l'injection contre la polio est inscrite dans le calendrier vaccinal. Mais les contaminations continuent au début des années 60, notamment à la frontière avec l'Allemagne, qui tente elle aussi de contrôler son épidémie. Les colonies de vacances, les rassemblements d'enfants sont alors interdits dans la région. L'objectif est de couper la chaîne de transmission.
Et pour cela, Pauline, l'État décidera de rendre le vaccin obligatoire.
La polio est une maladie grave, fréquente, le virus se propage rapidement d'homme à homme, le vaccin est efficace. Il peut donc devenir obligatoire, ce sera chose faite en 1964. Les médecins rappellent alors le protocole sur Europe 1.
En France, on utilise le vaccin type Lépine, c'est-à-dire injectable, qui nécessite 3 injections, séparées par un intervalle d'environ 1 mois, suivi ensuite d'un rappel au bout d'un an environ. Il semble donc que ce soit une bonne chose que d'obliger les Français à se faire vacciner.
10 ans plus tard, en 1974, l'OMS déclare vouloir éradiquer le virus, objectif atteint en 2002 en Europe, en 2020 en Afrique, après des efforts financiers et sanitaires acharnés. Aujourd'hui, la polio reste une réalité, une maladie endémique au Pakistan, en Afghanistan, notamment à cause de l'échec des campagnes de vaccination.
Merci beaucoup Pauline Jacquot. C'était le jour où sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, une petite révolution pour le crédit d'impôt.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée avec nous sur Europe 1. Il est 6h moins quart. C'est un tout nouveau dispositif qui devrait simplifier la vie de plus de 4 millions de Français. Le crédit d'impôt pour les ménages qui emploient des salariés à domicile, eh bien ce crédit d'impôt, il devient mensualisé. On en parle avec le directeur général de la Fédération du service aux particuliers.
Bonjour Antoine Grézot.
Bonjour.
Alors, petit rappel d'abord sur ce qu'est le crédit d'impôt. Les ménages sont remboursés à hauteur de 50% des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, dans la limite d'un plafond de 12 000 euros en général par an. Jusqu'à aujourd'hui, ce remboursement intervenait 1 an plus tard, une fois la déclaration d'impôt sur les revenus remplie. Expliquez-nous maintenant, Antoine Grézot, comment concrètement cela va fonctionner, cette mensualisation du crédit d'impôt. Parlons d'abord des particuliers employeurs.
Bah, c'est une simplification qui est assez basique et de bon sens. C'est que les ménages jusqu'ici, en faisant appel à des interventions à domicile, devaient avancer la paye vis-à-vis du salarié, faire une déclaration auprès du fisc et au bout d'un an se faire rembourser. Là, de fait, les ménages aujourd'hui auront juste à payer la moitié auprès du salarié aujourd'hui et dans quelques mois auprès d'une entreprise ou d'une association, et l'État se charge de payer l'autre moitié. Donc ça veut dire que concrètement, hier, une personne qui faisait appel à une femme de ménage à hauteur de 100 euros par mois payait 100 euros, et de fait, maintenant, cette personne paiera 50 euros et l'État s'occupe de rembourser, en tout cas de payer auprès de la salariée ou du salarié ou de l'entreprise les 50 euros restants.
Donc il faut adhérer au service CESU+ de l'URSSAF. Comment ça se passe sur le site de CESU+?
Il y a tout un dispositif qui a été organisé et réfléchi par les URSSAF, ce qui explique aussi le fait que ça a été un peu long pour mettre en place. Donc il y a eu 2 ans d'expérimentation. Donc il y a maintenant une plateforme où l'employeur indique qu'il souhaite maintenant passer par l'avance immédiate du crédit d'impôt. Il y a un site internet qui est assez bien fait où il déclare en fait le nombre d'heures qui a été fait par le salarié, l'identité du salarié et aussi son relevé d'identité bancaire. Et l'État s'occupe de rembourser la moitié de la prestation qui a été faite pendant le mois. Donc c'est assez rapide. Et au mois d'avril, au-delà du particulier employeur, ce seront les entreprises et associations qui seront bénéficiaires de ce type de dispositif.
Est-ce que ça change quelque chose pour le salarié? Pour le salarié des particuliers employeurs d'abord, est-ce que ce salarié va devoir faire des démarches en plus puisqu'il recevra finalement sa paye en 2 fois?
Pour le salarié, en fait, il n'y a pas une grande conséquence à l'égard de son salaire. Mais c'est plutôt pour le ménage, où là, plutôt que de faire une avance de trésorerie où il se ferait rembourser au bout d'un an, le ménage, en fait, ne paye que la moitié. Et c'est l'État qui s'occupe de rembourser, en tout cas de prendre en charge l'autre moitié. Ce qui veut dire que le blocage un peu psychologique qui était que c'était au ménage de faire l'avance de trésorerie, ce blocage, en tout cas ce blocage, oui, effectivement, est levé et l'avance de trésorerie n'est plus un obstacle pour de façon à faire appel au service à la personne à domicile et permet de potentiellement de faire appel à un plus grand nombre d'heures ou, le cas échéant, de faire sortir, et c'est vraiment l'enjeu à mon sens de ce dispositif, de faire sortir un certain nombre de salariés du travail au noir.
Et puis cela va offrir une meilleure protection sociale pour l'employé puisqu'il sera déclaré.
Alors, les effets bénéfiques sont énormes parce que d'une part, effectivement, ces personnes sont maintenant complètement déclarées, donc bénéficient de tous les avantages à être déclarées avec les charges salariales et patronales, et puis pour les retraites et pour la couverture l'assurance maladie. Et puis aussi, ça fait une recette fiscale pour l'État. En 2017, quand on avait à l'origine commandé une étude avec le cabinet Wyman qui a été confirmée par la Cour des comptes et par Bercy, la recette fiscale dès les 6 premiers mois de la mise en œuvre du crédit d'impôt était une recette fiscale de 1,2 milliard pour l'État. Quand on voit que finalement tous les débats sur la branche de l'autonomie, la dépendance est financée à hauteur de 6 milliards d'euros, bah finalement c'est une source de financement qui est assez importante. Donc effectivement c'est quand même une ressource pour chacun qui est assez significative.
Alors on parle de prestations, de ménage, jardinage, de soutien scolaire, mais pour le moment cela ne concerne pas les gardes d'enfants, les employeurs de nounous, de babysitters, ça arrivera plus tard ça.
Ça arrivera plus tard parce qu'en fait, dans ce triangle vertueux qui était entre l'État, le bénéficiaire et l'employé, pour les ménages qui n'étaient pas subventionnés, c'était quelque chose qui a été travaillé par les URSSAF en lien avec nous, la fédération FESP. Mais à partir du moment où il y a des prestations qui sont subventionnées, particulièrement pour les publics fragiles, donc ça veut dire pour les personnes en dépendance ou les personnes porteuses de handicap ou les enfants, intervient un autre acteur, qui est soit le département, donc là c'est pour l'APA et la PCH, soit pour l'accueil du jeune enfant, la CNAF. Et donc ça veut dire que tout le processus informatique, parce que c'est vraiment une démarche qui est assez complexe comme le prélèvement à la source, hein, c'est aussi important comme démarche de simplification que le prélèvement à la source, à partir du moment où on fait rentrer d'autres systèmes informatiques, il y a 100 systèmes informatiques différents par département, la CNAF a aussi un système informatique particulier, donc ça demande un peu plus de temps de développement et c'est pour ces raisons qu'en accord avec les acteurs des services à la personne, que le développement se fera de manière un peu plus graduée jusqu'en 2023.
Merci beaucoup Antoine Grézeau d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fédération du service aux particuliers. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h-10 sur Europe 1, hein, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi avec Alban Le Prince.
J'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire. Déclaration de guerre aux non-vaccinés d'Emmanuel Macron. Dans un entretien publié dans Le Parisien ce matin, des propos qui ont mis le feu aux poudres à l'Assemblée cette nuit, où les débats sur le pass vaccinal ont dû être suspendus. Ils doivent reprendre cet après-midi à 15h. Sur le front de l'épidémie de Covid, 64 enfants sont hospitalisés en réanimation. Chiffre dévoilé par Olivier Véran dans la soirée, le ministre de la Santé qui annonce également le décès de 28 mineurs depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 271 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. On termine avec du foot et la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de Lens. Hier soir, victoire au tir au but pour le derby du Nord face à Lille.
L'actualité culturelle à 5h51 sur Europe 1 le mercredi. On se penche sur les sorties cinéma de la semaine avec bien sûr Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Laurie.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Laurie, on commence avec une histoire d'amour.
Oui, et quelle histoire d'amour. Virginie Efira et Romain Duris qui jouent un couple anticonformiste dans En attendant Bojangles, l'adaptation du best-seller d'Olivier Bourdeau par Régis Roinsart. Alors l'histoire, c'est celle de Camille et Georges. Ils s'aiment d'un amour fou. Ils veulent échapper à la réalité, ils n'ouvrent jamais leur courrier, ils se donnent un prénom différent plusieurs fois par jour. Ils vivent au rythme des soirées et dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mister Bojangles de Nina Simone. Alors chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis, et cette vie hors norme se déroule sous le regard de leur jeune fils Gary, sous le regard également de l'oiseau tropical de compagnie, Madame Superfétatoire, et leur ami ange gardien, incarné brillamment par Grégory Gadebois.
Je n'y pensais même pas.
Elle va vous faire perdre la tête.
Je jure d'aimer toutes celles que vous serez, de les accompagner partout où elles iront.
Partout.
Absolument partout.
Ni papa, elle est malade, maman.
Ni plus ni moins que la plupart des gens. Tu sais, les grands sont tous un peu malades. Hein.
Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire.
Alors c'est vraiment un film qui va vous emporter, mené tambour battant par Virginie Efira et Romain Duris, qui sont absolument époustouflants. Écoutez d'ailleurs Virginie Efira nous dire ce qui l'a séduit dans ce projet.
J'étais sensible au fait que ça ne ressemble à aucun autre scénario, à aucune autre histoire, à un personnage où il y avait beaucoup de choses très très différentes à jouer. En fait, elle est d'une très grande complexité. Mmh. Mais j'irais vraiment, c'est ça, c'est de l'influx de cinéma. Ça correspond à un cinéma que j'aurais aimé adolescente, en fait. Ou à 16 ans, j'aurais fait oh, « ça, c'est du cinéma !»
Un film sur l'amour, l'éducation, la folie. Georges, le personnage de Romain Duris, dit à son fils à un moment « Ta maman n'est pas comme tout le monde, c'est une originale et tu ne dois pas avoir peur de ses excès. » Alors ne pas avoir peur, ok, mais jusqu'où peut-on vivre en niant la réalité? Vraiment, je vous encourage à aller voir ce film.
On continue à parler d'amour, Laurie.
Avec le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, donc c'est le réalisateur de Punk Drunk Love ou encore Magnolia, qui nous livre ici une comédie romantique irrésistible, drôle et excentrique. Alors un petit mot sur l'histoire, elle se passe dans les années 70 en Californie et c'est un jeune entrepreneur de 15 ans qui vend des matelas et qui va tomber amoureux d'une femme plus âgée que lui.
Tu trouves ça bizarre que je traîne tout le temps avec Gary et ses potes?
Jamais je t'oublierai, je te jure. Et tu m'oublieras pas non plus.
Moteur. Caméra A. Caméra B. Clap. Action. J'arrive, Dante.
L'alchimie des deux jeunes acteurs, Cooper Hoffman, le fils de Paul Seymour Hoffman et Alana Haim, est telle qu'ils font chavirer nos cœurs. Vraiment, c'est un film qui parle d'amour, mais d'engagement politique, du monde du travail, de la liberté d'entreprendre, surtout de vivre comme on l'entend. C'est un petit bijou qui nous replonge en plus dans l'esthétique des années 70, qui rappelle le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. C'est un vrai coup de cœur.
Licorice Pizza et en attendant Bojangles, donc les deux films à aller voir cette semaine au cinéma. Merci beaucoup Laurie Cheleva, excellent début de matinée sur Europe 1, 5h55, Benabar et Renaud avec Chez les Corses.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h57 dans un instant sur Europe 1, la météo, le journal et une première mondiale.
Oui, on vous en a parlé ces derniers jours sur Europe 1. Cette expérimentation qui vient de débuter avec l'installation des tout premiers radars sonores dans la vallée de Chevreuse, très prisés des motards dont certains ont des pots d'échappement on ne peut plus brillants. Et c'est loin d'être anodin car le bruit, on parle là du trafic routier, du brouhaha au travail, encore de vos voisins qui passent l'aspirateur peut-être à 5h57, eh bien toutes ces nuisances ont un coût financier. Il est abyssal, un coût aussi pour notre santé. Il est grand temps qu'on prenne conscience de l'impact du bruit sur nos vies. Eh bien, on en parle dans une dizaine de minutes avec la députée Lauriane Rossi, présidente du Conseil National du Bruit. On écoutera ensuite votre partition, Blin.
Ils ont présenté le hip-hop au monde en 1979. Sugar Gang avec Rapper's Delight, construit à l'aide d'un morceau de Chic, Good Times. Rendez-vous dans 20 minutes.
La météo, Marlène Duret, on revient des températures de saison?
Absolument Julien, de l'air froid s'est engouffré dans le sillage de la perturbation d'hier. Couvrez-vous hein, ce matin à 5h en relevé, 1 degré à Tours, 2 à Rouen, 3 à Paris, 5 à Besançon. Pas de grosse gelée pour le moment et les maximales cet après-midi afficheront 4 à 10 degrés en général avec 5 à Clermont-Ferrand, une moyenne de 6 en Alsace, 7 à 3 et à Paris, 8 à Rennes et Carcassonne, 9 en Avignon, 10 à Biarritz, près de la Grande Bleue. La fourchette de température est comprise entre 9 à Nîmes et 15 à Nice. Alors amélioration dans le ciel avec le retour de belles éclaircies, voire d'un franc soleil dans les Hauts-de-France, le bassin parisien, une bonne partie de la Bourgogne, le centre-val de Loire, les régions proches de la Manche et de l'Atlantique. On n'oublie pas une partie de l'Occitanie, même si quelques petites averses ne sont pas exclues entre la Normandie et la Bretagne. Soleil et vent fort en Méditerranée, avec une exception quand même des Alpes-Maritimes à la Corse où le ciel restera chargé. Et puis en montagne, quelques chutes de neige des 300 mètres, enfin pas grand chose. Voilà pour les prévisions. Une perturbation reviendra vendredi dans notre pays. Voilà, on est tranquille pendant deux jours.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le mercredi 5 janvier. Il est 6h. Et à la une ce matin, cette déclaration de guerre, celle d'Emmanuel Macron contre les Français non vaccinés. Emmerdés, je cite, ceux qui n'ont pas reçu leur injection. Les mots du chef de l'État dans Le Parisien qui ont suffi à suspendre les débats autour du pass vaccinal. Que s'est-il passé à l'Assemblée nationale? Le récit de la soirée dans un instant. En 2022, comme en 2021, la facture s'envole, celle de l'électricité. Le gouvernement réfléchit à des solutions pour soulager les entreprises. Quels sont les dispositifs possibles? Les réponses dans un instant de Maud Descamps. Et puis, une exposition détox à la fin de ce journal, celle consacrée au pissenlit au musée Guimet à Paris. Une balade où vous découvrirez bien plus que des mauvaises herbes.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Une provocation pour démarrer l'année. Emmerder les non-vaccinés, c'est ça la stratégie. Celle d'Emmanuel Macron qu'il détaille dans une interview au Parisien publiée hier soir. 5 millions de Français qualifiés d'irresponsables par le chef de l'État. Une étincelle qui a aussitôt enflammé l'Assemblée nationale où les débats sur le pass vaccinal ont été interrompus hier soir. Deuxième suspension en 24 heures à l'initiative de la députée insoumise Mathilde Panot qui s'adressait au gouvernement.
Nous ne continuerons pas à discuter d'un texte que vous avez présenté comme la protection des Français et qui est en fait un texte, comme on apprend dans la presse aujourd'hui, un texte qui est là pour emmerder une partie des Français, un texte qui invente la déchéance de citoyenneté, comme vous l'avez dit, lorsque il y a des irresponsables, ce ne sont plus des citoyens. C'est vous qui êtes irresponsable de faire ça. Et je dois dire que depuis le début des débats, c'est vous qui organisez le chaos. Je demande donc une suspension de séance, Monsieur le Président.
Bonjour Alexis Delafontaine.
Bonjour.
Alexis, vous étiez à l'Assemblée hier soir où la séance a été suspendue. Donc pourtant, avant ce coup de théâtre, l'adoption du projet de loi semblait bien partie.
Oui, il est 18h. Le débat sur le pass vaccinal reprend dans une ambiance très apaisée. Un accord est même trouvé pour exonérer les 12-16 ans de pass vaccinal pour les activités périscolaires, grâce à une concession du ministre de la Santé, Olivier Véran. Et là, patatras, à 21h, une bombe apparaît sur le site du Parisien. Le président de la République déclare, je cite, « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc j'irai jusqu'au bout ». Ni une ni deux, l'opposition s'embrase et refuse de continuer le débat sur le pass vaccinal si le Premier ministre ne vient pas immédiatement clarifier la nature du projet de loi. La question des députés est claire. Est-ce que le pass vaccinal qu'ils doivent voter a pour but d'emmerder les Français? À minuit, la séance est suspendue et après une heure d'attente, on annonce enfin la venue du Premier ministre à l'Assemblée. Les esprits se préparent donc à questionner Jean Castex. Il faut clarifier la situation. Mais nouveau coup de théâtre à 2h, la séance reprend sans le Premier ministre aux abonnés absents. Et là, certains députés laissent exploser leur colère. François Cormier-Bouligeon, député La République En Marche, fonce sur Alexis Corbière, député insoumis, front contre front, une altercation éclate dans l'hémicycle. Selon plusieurs témoins, les huissiers sont obligés de les séparer avant que la situation ne s'aggrave. Bref, à l'Assemblée, les débats sur le pass vaccinal sont au point mort et les tensions à leur maximum.
Le récit en direct d'Alexis Delafontaine et les débats doivent reprendre normalement aujourd'hui à 15h dans l'hémicycle.
Et dans cette interview, un autre paragraphe ne passe pas inaperçu, celui où le chef de l'État exprime, je cite, son envie d'être candidat en 2022 avec déjà une piste de réforme, le temps de travail et la formation des soignants.
Des soignants qui manifestent aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, un appel du syndicat Sud Santé pour les services de réanimation où seuls les infirmiers recevront une prime de 100 € ce mois-ci. Ce ne sera donc pas le cas de Delphine, aide-soignante, elle travaille à l'hôpital Nord de Marseille.
Ça veut dire que le reste du personnel ne compte pas. Ça fait maintenant 2 ans qu'on se bat contre le Covid, qu'on fait tout pour nos patients. On travaille en réanimation tout le temps avec une infirmière en tant qu'aide-soignante. Une infirmière n'est rien sans son aide-soignante. On travaille en binôme. Quand on veut changer de service pour X raisons, on nous dit qu'on est trop qualifié. On se sent dévalorisé, puis on se sent découragé parce que ça fait 2 ans qu'on est sur le terrain. Et puis la 5e vague, elle est bel et bien là. Et on nous demande de faire des heures sup, on fait des 60 heures par semaine. Tout ça, on est volontaire pour le faire parce qu'on sait qu'il y a des patients derrière. Les salaires ne sont pas mis au volant. Moi, avec 13 ans d'ancienneté, je fais 1877 €. On se sent oublié, oui.
Le témoignage de Delphine, aide-soignante en réanimation à Marseille, au micro de Stéphane Burgat. Des services de réanimation où sont hospitalisés 64 enfants en France, un record depuis le début de la pandémie.
Plus 19%, c'est la progression des prix de l'énergie sur un an, chiffre dévoilé hier par l'INSEE.
Et depuis des mois, les factures d'électricité s'envolent. En novembre, Jean Castex avait annoncé le gel de la hausse des prix, pas plus de 4% pour les particuliers. Maud Descamps, Bercy réfléchit à présent à des mesures ciblées pour les entreprises. Quelles sont les pistes du gouvernement ?
L'option la plus probable serait de revoir ce qu'on appelle le mécanisme de l'AREN, un dispositif qui permet aux entreprises d'acheter une partie de leur électricité à un tarif fixe auprès d'EDF, 42 euros le mégawattheure, mais dans une quantité limitée. Les entreprises doivent donc compléter en achetant de l'électricité sur le marché européen. Et là, les prix ont battu des records ces dernières semaines. Bercy est donc en négociation avec la Commission européenne pour rehausser la quantité d'électricité vendue à prix fixe, ce qui permettrait de contenir la hausse de la facture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Commission européenne qui bloque, confie un cadre qui travaille sur le dossier. Comprenez que c'est plutôt du côté d'EDF qu'il y a des réticences à vendre plus d'électricité à bas prix. D'ailleurs, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, ne cache pas sa détestation du système de l'AREN, qu'il qualifie de poison. Une position qui agace sensiblement du côté de l'exécutif, où l'on rappelle que l'État a notamment sécurisé l'avenir de la filière nucléaire avec la commande de nouvelles centrales. C'est donc au tour d'EDF de faire des efforts, laisse-t-on entendre dans l'entourage d'un ministre. Il est temps que EDF réfléchisse en termes d'intérêt général, souffle-t-on.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Le crash avait eu lieu 3 minutes à peine après le décollage du vol entre Sharm el-Cher et Paris. Ce drame, en janvier 2004, avait tué 134 Français.
Et 18 ans plus tard, la justice française vient d'ordonner la toute première mise en examen, celle de l'ancien patron de la compagnie aérienne égyptienne Flash Airlines. L'espoir d'un procès donc pour les familles des victimes défendues par maître Jean-Pierre Belcave.
C'est un sentiment de soulagement et de satisfaction. Les familles ont développé des milliers d'heures de travail, de recherche et d'analyse autour des données de cet événement, des boîtes noires, des expertises qui ont été rendues. Et aujourd'hui, c'est le fruit de leurs efforts et de leur travail et de leur acharnement qui se trouve finalement illustré par ce qui arrive dans le dossier pénal. Ce dont il est question, c'est le niveau d'insuffisance de formation du commandant de bord dans cet avion au moment où l'accident a eu lieu. C'est une responsabilité du président de la compagnie, qui n'est pas celle de la compagnie, attention, mais qui mérite d'être examinée.
Maître Jean-Pierre Belcave, joint par William Molinier. C'est une décision cruciale dans le scandale de la Dépakine. Le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur l'action engagée par des victimes contre le laboratoire Sanofi. Un médicament, la Dépakine, qui a provoqué de graves malformations, parfois mortelles, chez les enfants de plusieurs patientes.
Ce sont des mauvaises herbes, et pourtant un artiste a voulu montrer leur beauté. Les pissenlits à l'honneur dans une exposition au musée Guimet à Paris.
Et aux commandes, un plasticien vietnamien de 38 ans. Il a créé ses œuvres avec des plantes ramassées lors de ses balades. Nous aussi, on part en balade justement avec l'or d'Autriche.
L'impression d'avancer dans un champ en pleine nature. Des pissenlits par dizaines attirent le regard. À l'entrée, un panneau indique « Merci de ne pas souffler ». Posés un à un, délicatement, avec une petite pince, les pistils forment aussi des œuvres plus grandes qui représentent plusieurs mois de travail. Ce plasticien d'origine vietnamienne, Duyan Nanduc, aime les herbes oubliées, celles qu'on piétine, les orties, les pissenlits. Il préfère regarder un bouquet sec que des fleurs fraîchement coupées.
Le bouquet séché, affaibli, qui est sculpté par le temps, en fait, ça me parle beaucoup plus. J'aime cette fragilité. Et l'idée, c'est d'inviter aux visiteurs de se reconnecter à ces plaisirs simples, en fait, quand nous étions enfants, de jouer avec la nature, de regarder ce qu'on a encore et qu'on peut encore préserver.
Ce plasticien travaille aussi en ce moment sur une commande du Grand Paris, un immense panneau de 100 mètres de long qui montrera la beauté de toutes ces mauvaises herbes ramassées juste à côté dans un parc en Seine-Saint-Denis.
Voilà le reportage de l'or d'Autriche. Et les pissenlits, je vous les conseille aussi en infusion pour remettre son petit foie d'aplomb après les fêtes.
D'accord.
Voilà. Cette fois, c'est pas que pour vous, Julien, c'est pour tout le monde.
Ou pour perdre du poids, donc. C'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
Et on passe au sport avec les pissenlits.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec Cédric Chasseur et avec du football. Cédric et Lens, dernier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.
Oui, au terme d'un scénario fou, les Sang et Or ont éliminé Lille. Mené 2-0 à la pause, Lens est parvenu à revenir dans le temps additionnel grâce à un doublé de Fofana avant de s'imposer au tir au but. Le tout devant 5000 spectateurs seulement. La nouvelle règle, les nouvelles jauges en place au stade Félix Bollaert de l'Élys. Un petit regret d'ailleurs pour l'avant-centre du Racing, Corentin Jean.
On est très content d'être qualifié, mais sans notre public, voilà, c'est, ça n'a rien à voir. Je pense que s'il y avait eu 38, 40 000, ça aurait été une explosion incroyable. Mais bon, je pense qu'ils, derrière leur télé, sont très contents de la qualif et de la victoire dans ce derby. C'est un sacré scénario. À la mi-temps, on était frustrés. Et puis à la fin, on a tout donné, puis on est revenu au score et on s'est qualifié au tir au but. Donc c'est vrai que c'est une satisfaction.
Corentin Jean, au micro de Maximilien Carlier. Lens affrontera Monaco en huitième de finale. L'un des nombreux chocs d'ailleurs entre clubs de Ligue 1. Marseille recevra Montpellier. Nice ira défier le PSG. Nantes affrontera Brest. Les autres matchs, Reims-Bastia, Nancy-Amiens. Et les deux petits poussets, Bergerac recevra Saint-Etienne et Versailles-Toulouse. Des matchs qui se joueront le week-end du 29 et 30 janvier prochain.
En tennis, Cédric, une exemption qui fait beaucoup parler, celle accordée par les autorités australiennes à Novak Djokovic.
Exactement, le numéro 1 mondial qui n'a jamais voulu dire s'il était ou non vacciné a obtenu une exemption médicale pour pouvoir voyager et donc disputer l'Open d'Australie où il est le tenant du titre. Une décision qui a fait beaucoup réagir. You must be joking, tu blagues, titre d'ailleurs dans un jeu de mots le quotidien australien de Courrier Mail, alors que le nombre de cas quotidiens explose aussi sur place. Parmi les derniers touchés d'ailleurs, Richard Gasquet, placé à l'isolement en Australie. Le Français de 35 ans devrait tout de même participer au premier grand chelem de la saison. Mais évidemment, il y avait mieux pour démarrer 2022.
L'année commence pas du mieux possible. Bon, après, il y a beaucoup de joueurs qui vont l'avoir dans les mois qui viennent. Moi, au moins, normalement, je serai épargné par rapport à ça. Mais oui, essayer de faire plaisir, faire une belle saison. C'est sûr que je suis plutôt en fin de carrière, ça, il n'y a pas de doute. Donc, essayer de bien finir et, comme je l'ai dit, de se faire plaisir sur les courts.
Richard Gasquet au micro d'Axel May. L'Open d'Australie débute dans 12 jours, le 17 janvier.
Merci Cédric, c'était le journal des sports de Cédric Chasseur.
Restez avec nous, dans un instant on va revenir sur ces tout premiers radars sonores qui viennent d'être installés et plus largement sur ce fléau qu'est le bruit. Ça nous coûte 147 milliards d'euros par an. On en parle dans un instant avec la députée Lauriane Rossi, présidente du Conseil National du Bruit. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h12. Votre invité Julien est député La République En Marche des Hauts-de-Seine, présidente du Conseil National du Bruit.
Bonjour Lauriane Rossi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour cette première mondiale, l'expérimentation de radar sonore visant à verbaliser les deux roues trop bruyants. On en a parlé sur Europe 1 ces derniers jours. Trois radars viennent d'être mis en marche dans la vallée de Chevreuse pour, dans un premier temps, une phase de test, d'homologation. Puis les amendes devraient suivre un peu plus tard dans l'année. C'est un premier pas que vous saluez ?
Oui, je le salue d'autant plus que nous en sommes à l'origine avec le député Jean-Noël Barrot. Nous avons, il y a 2 ans et demi, intégré dans la loi l'expérimentation de ces radars sonores pour justement mieux lutter contre le bruit, contre la pollution sonore liée au transport. Et donc cette expérimentation dans 7 collectivités en France est une avancée majeure, c'est une avancée mondiale, hein, vous l'avez dit, et ça permettra demain de mieux sanctionner les véhicules les plus bruyants, notamment les deux roues trafiqués qui empoisonnent le quotidien de beaucoup de Français.
Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace d'éliminer le problème à la source, autrement dit d'interdire de la circulation ces motos et scooters avec des pots d'échappement trafiqués, comme vous dites, et pour ça on avait une solution dont Emmanuel Macron a annulé l'entrée en vigueur, c'est le contrôle technique des deux roues.
Oui, vous avez raison, il faut prendre le problème, si je puis dire, des deux côtés, c'est-à-dire à la source, c'est tout l'enjeu de la lutte contre la pose et la vente de pièces non homologuées qui permet de trafiquer les véhicules et les rendre plus bruyants. C'était tout l'enjeu du contrôle technique aussi, et moi, en tant que présidente du Conseil National du Bruit et députée, je regrette le report de la mise en place de ce contrôle technique, j'espère que nous y reviendrons. Il n'y a pas de raison que les automobilistes s'y conforment et pas les motards. Évidemment, ces radars qui demain permettront de sanctionner aussi les véhicules trafiqués les plus bruyants.
L'expérimentation de ces radars nous rappelle en tout cas combien nos oreilles sont souvent saturées. Il y a le trafic routier, les avions, le brouhaha des open space, le dernier des voisins qui fait ses dents. Et tout ça, ça n'est pas neutre, ça a un coût, Lauriane Rossi ?
Oui, c'est un coût qui est énorme, près de 150 milliards d'euros par an, 150 milliards, c'est le coût sanitaire et social du bruit dans notre pays chaque année, c'est-à-dire les dépenses de santé qu'on aurait pu s'éviter si justement on avait une action contre la pollution sonore, au même titre par exemple que la pollution de l'air. Donc on appelle avec le Conseil National du Bruit à une prise de conscience des pouvoirs publics et aussi des collectivités pour agir beaucoup plus efficacement et avec énergie contre cette pollution sonore.
Comment on arrive à un tel montant, près de 150 milliards d'euros par an ?
Oui, on a beaucoup travaillé pour rendre cette étude, on a beaucoup travaillé avec les établissements de santé pour chiffrer justement les dépenses de santé liées à la pollution sonore parce que vous avez des pathologies, des maladies qui sont clairement associées au bruit, troubles du sommeil, dépression, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Donc on a chiffré tout ça, on a également chiffré la perte de croissance, la perte de productivité liée au bruit. Vous parliez à l'instant du bruit en milieu professionnel, c'est un vrai sujet. Et puis nous avons également chiffré la dévaluation des biens immobiliers pour les propriétaires exposés au bruit, notamment des transports.
On apprend dans cette étude que plus d'un quart des Français souffrent au quotidien des nuisances sonores. Ce sont 17 millions de personnes. Est-ce que le bruit tue, comme peut le faire massivement avec 48 000 décès par an, la pollution atmosphérique ?
Tout à fait, vous avez plusieurs milliers de décès par an qui sont directement liés au bruit. C'est très difficile évidemment de caractériser ce lien, mais il existe et l'étude que nous avons menée, encore une fois en lien avec des professionnels de santé, le démontre. Au même titre que la pollution de l'air qui, je le rappelle, fait chaque année 50 000 morts par an dans notre pays. Voilà, donc pollution de l'air et pollution sonore sont de vrais sujets. C'est souvent lié d'ailleurs, quand vous êtes exposé au bruit, vous êtes généralement exposé à la pollution de l'air parce que vous habitez à côté d'un aéroport, à côté d'un axe routier très sujet au trafic et à la pollution atmosphérique. Voilà, donc l'enjeu et le combat est le même et nous appelons encore une fois à une prise de conscience.
Donc d'une certaine manière, si je vous comprends bien, lutter contre les nuisances sonores, c'est participer à réduire le trou de la sécu ?
Tout à fait, c'est à la fois un enjeu écologique mais aussi un enjeu de santé publique. Un véritable enjeu de santé, compte tenu, je l'ai dit, du coût que ça représente pour les dépenses de santé, mais compte tenu des maladies et du nombre de décès que le bruit cause chaque année.
Quelle est la première source de nuisances sonores ? Pardonnez-moi, Lauriane Rossi, quelle est la première source de nuisances sonores ?
Alors, les transports constituent la première source, à peu près 30% des nuisances. La première source étant celle des transports routiers, vous avez ensuite le ferroviaire et l'aérien. Mais vous avez également d'autres sources de pollution sonore, le bruit évidemment des activités de voisinage, et pas que le voisin, vous pouvez également avoir une industrie, une entreprise à côté de chez vous qui crée du bruit, des lieux musicaux, et vous avez également évidemment les bruits liés au chantier, les bruits liés les bruits en milieu professionnel.
Qu'est-ce qu'on peut
vous
faire
avez 10 millions de Français aujourd'hui, je tiens à le signaler, 10 oui. millions de Français qui sont exposés à des seuils supérieurs aux seuils autorisés, et 20 millions de Français à peu près exposés au bruit.
Concernant le bruit du transport routier, qui est donc la première nuisance sonore, qu'est-ce qu'on peut faire pour la réduire ?
Alors là aussi, l'enjeu, c'est de prendre la nuisance à la source, c'est-à-dire de travailler sur la motorisation des véhicules. Et là, c'est vrai que le véhicule électrique, le véhicule hybride sera demain, dès aujourd'hui, beaucoup moins bruyant. Travailler sur la vitesse, sur les revêtements routiers, tout ça, ça permet quand même de réduire le bruit. Évidemment, le contrôle technique des véhicules aussi, qui permet de s'assurer qu'ils ne sont pas trafiqués. Évidemment, ces radars sonores que nous expérimentons, qui permettront de sanctionner les deux roues, mais également les voitures les plus bruyantes, une fois que ces radars pourront verbaliser.
Et est-ce que chez soi, en plus de l'isolation thermique dont on parle beaucoup, qui fait l'objet de nombreux crédits d'impôts, d'aides, d'incitations, etc., est-ce qu'il faut en plus travailler sur l'isolation phonique de nos logements ? Est-ce que les deux, finalement, sont pas liés ?
Tout à fait, les deux sont liés, c'est aussi un combat que nous menons nous ne sommes pas encore entendus, nous militons avec le Conseil National du Bruit pour que l'isolation phonique des logements, l'isolation acoustique, bénéficie elle aussi d'aide à la rénovation, au même titre que l'isolation thermique. Et d'ailleurs, les deux vont souvent de pair, voilà, donc aujourd'hui ça
oui,
n'est pas subventionné.
Oui, parce que mettre du double ou du triple vitrage, ça isole aussi phoniquement, hein.
Oui, vous n'avez pas que la pose d'ailleurs de double ou triple vitrage, vous avez également d'autres procédés qui permettent de s'isoler. Mais encore une fois, c'est une solution, mais la première des solutions est de réduire le bruit à la source. Je crois qu'il ne faut pas non plus faire reposer sur les Français qui sont exposés au bruit la dépense. Il faut aussi prendre le problème à la source et agir dès le départ contre cette pollution sonore.
Quelle est l'évolution de cette problématique, Madame la députée ? Est-ce que notre société en clair est de plus en plus bruyante ?
Oui, notre société est de plus en plus bruyante et nous sommes de plus en plus exposés à ce que l'on appelle le cumul de bruits, c'est-à-dire à des bruits dont l'origine est diverse. Bruit des transports, bruit des chantiers, bruit du voisinage, etc. Et la crise sanitaire, notamment le confinement que nous avons traversé il y a quelques mois, l'a démontré. On a rendu une étude là aussi qui est extrêmement parlante sur le sujet, qui démontre bien que pendant le confinement, beaucoup de Français que nous avons interrogés avec une étude extrêmement fine, ont retrouvé une meilleure santé et un calme que nous n'avons jamais
observé jusqu'alors. Ça a été une révélation pour de nombreux Français, oui.
Une révélation et puis derrière un drame pour ceux qui sont revenus à une pollution sonore extrêmement forte et souvent un cumul de bruit. Quand vous êtes habité, je le disais tout à l'heure, à côté d'un aéroport, vous êtes souvent soumis à des bruits d'origine diverse, aussi bien celui des avions, mais également des axes routiers qui le desservent.
Merci beaucoup, Lauriane Rossi, députée La République en Marche et présidente du Conseil national du bruit, d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité. Alban Le Prince.
Débat sur le pass vaccinal, une nouvelle fois suspendu cette nuit à l'Assemblée. La raison, c'est les déclarations d'Emmanuel Macron dans un entretien publié dans Le Parisien ce matin. Le président dit vouloir emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Le chef de l'État qui ne cache pas qu'il a envie de se présenter à la présidentielle dès que les conditions sanitaires le permettront et qu'il aura clarifié le sujet, il s'exprimera. C'est dans ce contexte que les chiffres de l'épidémie continuent de flamber. Face au raz-de-marée Omicron, plus de 270 000 nouveaux cas hier et près de 3 000 admissions à l'hôpital.
On termine avec votre partition, Omblin. Et à l'occasion de l'exposition hip-hop qui se tient en ce moment à la Philharmonie de Paris, vous revenez sur l'histoire de la première chanson de rap classée dans les charts aux États-Unis. Il s'agit de Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
De Sugar Hill Gang, oui, elle est apparue dans ce classement des meilleures ventes de singles, Julien, précisément le 5 janvier 1980, c'est-à-dire 4 mois après sa sortie. Rapper's Delight, c'est le hold-up le plus célèbre et le moins discret de l'histoire de la musique, ou comment le groupe Sugar Hill Gang a construit son morceau en se basant sur le titre Good Times de Chic.
Good Times est sorti en 1979 et a rencontré depuis beaucoup de succès auprès d'autres artistes.
Comprenez, il a été beaucoup repris, beaucoup samplé. Pour rappel, le sample, c'est juste un bout de morceau, une boucle qui va servir à créer une musique toute neuve ou presque. Et cette mythique ligne de basse de Bernard Edwards, associée au riff de la guitare de Nile Rodgers, n'ont jamais cessé d'inspirer.
Retour sur la genèse de ce qui va être le premier tube de rap de l'histoire avec le funk comme socle de l'édifice.
Oui, je vous présente Sylvia Robinson. Elle est productrice de Rhythm and Blues bien des années plus tôt. Elle était chanteuse et guitariste connue pour avoir fait partie du duo Mickey and Sylvia.
Et depuis le début de sa carrière, Sylvia Robinson a toujours su prendre le train en marche.
Elle a su même être en avance sur les tendances à la fin des années 70. Pendant que l'Amérique danse sur le disco, se déchaîne sur le rock, elle découvre le rap qui vit sa propre existence sur les trottoirs du Bronx et de Harlem, mais personne n'a encore capté ses créations éphémères.
Euphorique, Sylvia Robinson compose une mélodie simple en s'appuyant sur cette fameuse ligne de basse de Good Times.
Il faut maintenant trouver les interprètes, les rappeurs. Ce seront Big Bank Hank, Pizzaiolo, 21 ans, Master G, 16 ans, Wonder Mike, 21 ans. Ils écoutent la composition et se lancent dans un rap improvisé. In history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into.
Le groupe est baptisé Sugar Hill Gang en référence au label de Sylvia Robinson tout juste créé, Sugar Hill Records.
Oui, premier label de rap de l'histoire. Rapper's Delight est enregistré sur le champ. C'est un succès, la fièvre gagne le monde entier. Pendant ce temps, Chic découvre l'utilisation du sample de Good Times en écoutant presque par hasard une cassette. Après avoir menacé le label de Sylvia Robinson d'une poursuite en justice, Bernard Edwards et Nile Rodgers sont finalement crédités comme co-auteurs de ce titre fondateur du hip-hop. Une sage décision quand on sait que Rapper's Delight a gagné plus d'argent que Good Times.
bit of a hip, hip hopper, you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. I say I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat. An attempt to raise your body heat, or just blow your mind so where that you can't speak and do a thing. But a rock and shuffle your feet, and later change up to a dance called the freak. And when you finally do come into your rhythmic beat, rest a little while so you don't get weak. I know a man in Hank, he has more rhymes than a serious bank. So come on, Hank, I'll sing that song to the rhythm of the boogie bang bang the bomb. When I felt the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight.
Rapper's Delight de Sugar Hill Gang avec le titre Good Times de Chic en nombre chinoise, entré dans le classement des meilleures ventes de singles aux États-Unis il y a 13 exactement 42 ans.
Ça réveille, merci beaucoup Ambline, ça donne un bon rythme de bon matin. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko et Marlène Duret pour la météo, à tout de suite.